Merci à tous ceux qui se joignent à nous pour cette deuxième heure d'émission. On parle beaucoup de l'aide médicale à mourir. On a parlé d'élargir d'ailleurs son accès aux personnes atteintes de maladies, par exemple comme l'Alzheimer et la maladie mentale. Vous savez que là-dessus, le gouvernement du Québec a reculé parce qu'on voulait mettre justement les gens qui avaient des enjeux de santé mentale et qui voulaient mettre fin à leur jour, qui estimaient que la vie était trop lourde, qu'il y avait trop de souffrance. Puis on parle véritablement de souffrance même dans la maladie mentale. Et là, on a reculé devant le tollé de gens qui disaient « Voyons donc, ça n'a pas de bon sens, pensons-y ». La semaine dernière, on a reçu le docteur François Marquis, intensiviste, interniste au CIUS de l'Est de l'île de Montréal, qui est à Maisonneuve-Rosemont, que vous avez vu dans cette fabuleuse série à Télé-Québec de Garde 24/7. Docteur François Marquis, vous l'avez adoré, nous aussi. Alors, on lui a demandé de revenir. Merci beaucoup d'être là, docteur Marquis. Vous êtes un des rares hein, qui pratiquent l'aide médicale à mourir. On sait, entre autres, que c'est à peu près quoi? 3 % des médecins qui la pratiquent. C'est très nouveau, dans la région de Montréal, en tous les cas.
Oui, c'est aussi très inégal. C'est qu'il y a des zones qui sont bien desservies. Il y a des zones qui sont malheureusement moins bien servies.
Vous nous aviez raconté, d'ailleurs, la dernière fois, à quel point, puis on le comprend, c'est extrêmement chargé comme acte médical pour un médecin. C'est pas simple non plus de faire ça, parce que vous avez été formé pour guérir, pour aider à vivre et non pas à aider à mourir, finalement. Mais on avait compris que c'était un acte médical aussi.
Oui, c'est un acte médical. Techniquement, c'est extrêmement simple parce que c'est les mêmes médicaments qu'on utilise, c'est juste des doses un peu différentes, mais c'est vraiment l'impact avec notre vie quotidienne, le avant, le pendant, le après. C'est que c'est un acte médical qui est un suivi aussi, hein, parce qu'il n'y a rien qui se fait dans la même journée. Et c'est un acte médical qui laisse une trace. Là. C'est pas comme prescrire des antibiotiques.
Fait que je disais donc, la ministre de la Santé a annoncé il y a quelques semaines qu'elle va organiser un forum fin février. On n'a pas la date exacte, on l'a cherché encore ce matin, on l'a pas trouvé, l'avez-vous?
Non.
Bon, on va le savoir éventuellement, pour discuter encore de l'aide médicale à mourir pour ceux qui souffrent de maladies mentales. Donc, pour l'instant, on a comme enlevé ça du projet, mais on l'a quand même pas loin. Il va falloir en débattre. Je voulais avoir votre opinion là-dessus. Je voulais qu'on en discute ensemble puis avec les auditeurs. Qu'est-ce que vous pensez, ça? Parce qu'il y a l'Alzheimer, il y a la maladie mentale. Pour l'Alzheimer, il y a des gens qui ont témoigné, des gens qui ont l'Alzheimer précoce, par exemple, qui savent très bien comment ça va finir pour eux, qui dit « je veux pas me rendre là ». Pour les gens qui sont atteints d'Alzheimer, par exemple, est-ce que vous êtes d'accord avec l'accès plus élargi à l'aide médicale à mourir?
Je pense que ce soit pour les maladies neurologiques comme l'Alzheimer ou pour la maladie mentale, dans le principe, on est pas mal tous d'accord sur l'élargissement. Le problème, ça va être dans l'application. Une des particularités de la maladie de type d'Alzheimer, c'est que pour beaucoup de patients, c'est extrêmement terrible de se faire annoncer la nouvelle, surtout si on a des proches qui sont passés par là. Et on se rappelle que c'est une maladie qui est difficile pour le patient et qui a une espèce de période qui est terrible pour les proches, mais où le patient peut vivre dans une espèce de moment présent où il n'est pas nécessairement malheureux. Et quand le patient qui est en Alzheimer précoce voit son cheminement et va dire « moi, je n'accepte pas de me rendre jusqu'à telle étape. »
Je veux pas finir comme
ça. Je voudrais donc l'aide médicale à mourir. Il existe la problématique que quand cette date-là va arriver et qu'on sonne à la porte, le patient ne veut pas mourir et qu'il ne comprenne pas pourquoi on voudrait lui prodiguer l'aide médicale à mourir. Et ça, c'est une réalité.
Vous l'avez vécu, ça?
Moi, je ne l'ai pas vécu, mais j'ai un de mes collègues neurologues qui a fait énormément de recherches sur la maladie d'Alzheimer et qui me disait, François, faites juste attention avec votre aide médicale à mourir. Il dit, rappelle-toi, dans mes cliniques d'Alzheimer, j'en ai qui sont extrêmement heureux, entourés d'une famille extrêmement en détresse, mais que les patients ne sont pas si pires. Plus tard, ça dégénère. Plus tôt, ça va mal, mais il y a cette période-là. Il dit, qu'est-ce que vous allez faire si le patient, quand vous sonnez à la porte, il est dans cette période-là? Est-ce qu'on pourrait simplement questionner le patient, comment va sa vie, est-il heureux? Et si le patient dit, ben moi, toutes les choses vont bien, on remet à plus tard l'AMM. Je ne dis pas que ce n'est pas possible de trouver une solution, mais ça ne sera pas aussi simple. Et tout le questionnement dans l'aide médicale à mourir, le patient doit démontrer une envie, quand je dirais perpétuelle ou à tout le moins permanente de vouloir mettre fin à ses jours pour des raisons de souffrance. Et c'est là qu'on risque de perdre cet élément-là.
Mais quelqu'un, par exemple, qui dit aujourd'hui Puis il y en a des gens qui le disent aujourd'hui, qui ont entre autres la maladie d'Alzheimer précoce, dont le père, je pense à Sandra de Montigny d'ailleurs, qui a une page Facebook là-dessus. Je vis avec l'Alzheimer précoce, qui est venue souvent à l'émission témoigner de ça. Pour elle, c'est clair. Elle a vu son père mourir d'Alzheimer. Elle sait exactement ce qui l'attend. Elle a oublié dernièrement ses bottes à l'entrée. Elle ne savait même pas que c'était ses bottes à elle. Elle dit, ce genre de choses m'arrive de plus en plus souvent. Elle met ses clés dans le frigidaire. Elle sait qu'elle va finir comme son père a fini, c'est-à-dire elle ne sera plus consciente qu'elle existe.
C'est
et
ça.
Elle dit, cette idée-là, que je serai plus consciente, que je vis moi-même, je veux pas vivre ça.
Oui, et je pense que rendu
fait
là...
Qu'on gère ça comment?
C'est ça, mais la question, c'est est-ce qu'on est rendu tellement avancé qu'on est dans un état un peu grabataire où on n'a plus de relation avec l'extérieur? Ça, c'est une étape assez terminale, mais moi, je parle juste pour cette petite période qui peut être plus ou moins longue, là, où les gens sont juste quand même heureux.
En fait, on ne sait pas s'ils sont heureux.
Mais si on leur pose la question, est-ce que moi, j'en ai des patients dans la vie de tous les jours, pas dans l'aide médicale à mourir, qui sont déments et qui ne sont pas malheureux, même avec une démence relativement avancée.
Ouais.
Je ne dis pas que c'est le même pour tout le monde, mais je dis juste que dans un cas où on parle d'un traitement médical qui est irréversible, il faut s'assurer de ne pas se tromper. On a un devoir de diligence qui est encore plus important parce que ces patients-là sont vulnérables. Et nous, comme médecins, on ne veut jamais se tromper, mais s'il y a un moment où tu ne veux pas te tromper, c'est avec un patient vulnérable et avec une thérapie qui n'a pas de façon de contourner. Là, un coup que c'est fait, c'est fait.
Oui, parce que là, on parle d'Alzheimer. Là, hier, le gouvernement fédéral a demandé un délai de 4 mois pour répondre au jugement de la Cour supérieure du Québec dans ce dossier-là, de l'aide médicale à mourir. Et si ce délai-là est accordé, ça veut dire que ceux qui ne sont pas en fin de vie ne pourront pas obtenir l'aide médicale. C'est-à-dire que ce qui avait été décidé au Québec, là, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas en fin de vie, mais que vous estimez que votre souffrance est trop grande, vous pourrez avoir accès à l'aide médicale à mourir à compter du 12 mars. On avait cette date du 12 mars. Mais là, s'il y a un délai, parce que le gouvernement fédéral est contre la loi du Québec, c'est un peu ça finalement. C'est technique, là, mais en gros, docteur Marquis, je pense qu'on peut dire ça comme
c'est ça. C'est un peu ça,
oui. Donc là, est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui va arriver? Là? Il y a des gens là, qui, c'est les 4 prochains mois, ça, on ne sait pas trop, qu'est-ce qui va se passer?
Bien, en fait, nous non plus, on ne sait
non
pas.
Plus.
Et ça, je pense que dans un système où on essaie de favoriser que des médecins s'impliquent, c'est une excellente façon aussi de créer de l'anxiété chez le docteur. Parce que, imaginez, là, moi, je pense que la date est correcte, je fais une aide médicale à mourir et là, sur une technicalité légale, je deviens un meurtrier. Wow! Et ça, c'est une crainte qui existe aussi chez les médecins parce qu'on est à la remorque d'une réglementation, d'une légalisation. Pour la grande majorité d'entre nous, on n'est pas des avocats. Et donc, ces petits détails-là peuvent avoir une grosse conséquence pour nous. Et c'était un peu la problématique au début. C'est de dire, wow, je m'en vais faire quelque chose qu'il y a un mois, j'aurais été en prison pour faire. Et ça, c'est assez particulier. Et quand on a... Et je pense que c'est important que les choses soient bien faites au point de vue légal. Là, je ne dis pas qu'il faut hâter les choses puis dire « Ah, ça a été décidé ». Mais je crois que le message doit aussi être envoyé clairement aux médecins. Ça, c'est possible. Ça, c'est pas possible. On est rendu là. Parce que si on crée de l'anxiété, ben par prudence, un médecin... Il n'y a pas un médecin qui a le goût de finir en prison. Hein? C'est qu'on va juste dire « ben écoutez, tant que ça ne sera pas réglé, ben moi, j'en ferai plus. » Et là, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui devraient avoir accès aux soins, qui vont se trouver pénalisés sur une technicalité juridique qui est quand même importante de régler. Mais il ne faudrait pas rester en limbo bien ben longtemps sur cette question-là.
C'est ça.
Il ne faudrait pas le changer à toute... il ne faudrait pas qu'il y ait des cas d'espèce de cours qui amènent des modifications de virgule à chaque fois, puis des petits changements. On ne s'y retrouvera plus. Là.
Parce que là, ce que le fédéral dit, c'est que la loi québécoise est discriminatoire. Mais vous en pensez quoi, vous? Êtes-vous plutôt d'accord avec ce qui a été décidé au Québec, à part bon, la question de l'aide médicale à mourir pour les gens qui sont en santé mentale, qui ont des problèmes de santé mentale? Ça, vous n'êtes pas d'accord pour ça?
Bien, en fait, ce n'est pas que je ne suis pas d'accord sur l'ouverture. Je pense que c'est important de reconnaître que la maladie mentale est aussi réelle, a une place aussi importante que la santé physique, et devrait avoir accès au même niveau de soins. Maintenant, le problème est dans l'applicabilité dans la santé mentale. Et je crois que là, encore une fois, parce que c'est des patients qui sont extraordinairement vulnérables et qui ont une maladie ou des maladies qui peuvent amener un élément de confusion super important dans le concept de l'aide médicale à mourir. Quelqu'un déprimé qui nous répond « je veux mourir, je veux mourir, je veux mourir, je veux mourir, je veux mourir », il va le répéter tout le temps. Il va être très convaincu et très convaincant. Mais est-ce que c'est une manifestation de sa maladie? Et si on traite sa dépression, il revient à son statut fonctionnel et tout le monde est content? ou il s'agit d'un cas réfractaire pour lequel l'aide médicale serait peut-être une option. Et moi, je n'ai pas ce problème-là dans le cancer. Dans le cancer, je le vois, là. Il est là. Dans la maladie neurologique, je la vois, elle est là. C'est une maladie physique. Je peux et je suis confiant d'être capable d'évaluer ce patient-là. Dans la maladie mentale, il faut comprendre qu'il va falloir ouvrir l'évaluation et le champ d'application. Autrement dit, quel médecin va faire l'acte médical à ceux qui sont des experts de ces maladies-là? Parce que moi, comme médecin de santé physique, je n'accepterai pas, ça c'est mon opinion personnelle, mais là où moi je vais tracer une limite, je n'accepterai pas, par exemple, qu'un comité me dise « Docteur Marquis, monsieur ou madame ici présent a été officiellement accrédité à une médicale à mourir, pourriez-vous procéder aux soins? » Non, les médecins, on doit traiter les maladies qu'on connaît avec des thérapies qu'on connaît. Ça, c'est à la base de notre responsabilité médico-légale. Mm-hmm. Je ne me ferai pas dire par un comité, je ne me ferai pas dire par des gens spécialisés en santé mentale que ce patient-là a une maladie réfractaire et que donc je peux procéder. S'ils veulent évaluer le patient, ils vont aussi administrer le traitement. Comme, par exemple, un psychiatre va décider est-ce qu'un patient a besoin de sismothérapie, hein, les fameux électrochocs, ou est-ce qu'il a besoin d'un traitement médicamenteux. C'est pas moi, il ne m'envoie pas une lettre pour dire commencer le traitement antidépresseur ou commencer le traitement antipsychotique. Ils gèrent leur traitement. Et donc, s'ils évaluent un patient de santé mentale qui le rend accessible à l'aide médicale à mourir, dans mon opinion à moi, il va falloir qu'ils administrent le soin. Ça va faire partie de leur continuité. Et ça, cette partie-là du corps médical n'a pas vraiment présentement été très impliquée là-dedans.
L'histoire de la santé mentale, ça nous est apparu soudainement. On n'en avait jamais trop discuté dans l'aide médicale à mourir, dans tout ce projet d'élargir l'aide médicale à mourir aux gens qui n'étaient pas en fin de vie. Ce qui peut quand même être une solution pour certaines personnes. Puis on l'a vu, la décision Truchon, le cas Truchon, c'est ça. C'est des gens qui sont, ils sont très lourdement handicapés par plein de choses qu'ils considèrent trop souffrants pour eux. Mais dans le cas de santé mentale, c'est comme arriver un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe, puis on s'est dit, oh là là, d'où ça sort?
Mais moi, je pense que ça sort à la base d'une bonne idée. Hein. C'est un peu ce que je disais, c'était de reconnaître à la santé mentale...
Comme une véritable souffrance.
Comme une véritable souffrance. Et ça, je pense que d'un point de vue de société, c'est un plus. Ça, c'est comme moi je dis, bravo pour cette partie-là. Et de là, il y a un raisonnement absolument logique de dire, si l'aide médicale à mourir est accessible pour une maladie physique, elle devrait être accessible à la maladie mentale. Jusque-là, je suis, mais c'est dans l'application. Et c'est là le nœud du problème. C'est qu'on est tous d'accord sur le principe, sur l'application, toujours dans l'optique patient vulnérable. Donc, devons absolument être 10 fois plus prudents.
Ouais. Docteur François Marquis est notre invité. Il est intensiviste. Nous discutons de l'aide médicale à mourir. Est-ce qu'il faut l'élargir aux personnes atteintes de maladies mentales, d'Alzheimer également à la rigueur? On a discuté de ça. Le gouvernement du Québec était ouvert à ça. L'avait même prévu, mais devant le tollé, l'a mis de côté. C'est toujours remarqué dans les plans, puis ça pourrait toujours venir. On essaie de voir de quelle façon ça peut être applicable. Je pense que l'intervention du docteur Marquis est vraiment pertinent dans la mesure où ça nous aide à comprendre. Qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous, qui nous écoutez? Est-ce que vous estimez que si vous avez un problème de santé mentale, vous voulez avoir accès à l'aide médicale à mourir? Est-ce que c'est ce que vous souhaitez si jamais vous perdez la mémoire, que vous devenez Alzheimer? Est-ce que vous voulez avoir accès à ça, éviter de souffrir trop longtemps, même si on peut penser que vous êtes heureux? 514-790-9850 et sans frais, 1-866-790-9850. Bien sûr, on est en compagnie du docteur François Marquis. On parle d'aide médicale à mourir. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir. On va vous donner la parole dans 2 minutes, dès qu'on va me donner un nom. Docteur Marquis, il y a des gens qui m'écrivent. Il y a Pierre qui dit « La maladie de Parkinson, ça génère une fin de vie parfois pire que la maladie d'Alzheimer. » Est-ce que vous mettriez ça là-dedans aussi?
Oui, parce qu'on voit souvent la maladie d'Alzheimer comme juste des problèmes de tremblement, mais effectivement, des démences extrêmement profondes qui sont souvent liées avec cette maladie-là. Et les gens se fige dans le temps. J'ai aucune difficulté à considérer la maladie d'Alzheimer comme étant l'équivalent à tout le moins de la maladie d'Alzheimer.
Il y a Manon qui dit effectivement ce que vous décriviez tout à l'heure. Vous savez, la personne qui a l'Alzheimer mais qui est heureuse, elle dit sa mère, ils ont vécu ça avec sa mère, elle était dans une espèce de cocon heureux. Elle dit, je ne sais pas si à ce moment-là, on aurait été capable de faire la demande. Ce qu'il faut préciser ici, c'est que c'est jamais la famille qui doit faire la demande.
En fait, c'est pas possible à la famille. Alors, si la famille demande l'aide médicale à mourir, nous, on doit simplement dire que ça doit absolument venir de la personne.
Ça devra donc être dans les volontés avant d'être à un stade trop
avancé. Oui, et c'est dans le cœur du problème, c'est ça.
On a Gina qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute?
Mais moi, je suis pour plusieurs raisons. Je l'ai vécu dans la famille avec ma grand-mère. Elle ne me reconnaissait plus du tout. C'était de l'Alzheimer. Mm-hmm. Elle me prenait pour un garçon. J'ai les cheveux courts. Puis elle me disait toujours, « Yé, bon, ce beau petit gars-là. » Non, c'est parce que mamie, non. Je suis ta petite fille, moi. Et non, ouais. Elle n'était plus là. Elle n'était plus là. Je pense définitivement qu'on est à la veille d'un virement dans notre société. Et dans toutes les sociétés modernes, c'est une ouverture et c'est une bonne ouverture. Il faut aller là. Bravo pour les médecins qui s'engagent là-dedans.
Ouais, merci, Gina. Merci, Gina. On a plein de gens qui veulent intervenir. On va, si vous me permettez, donner la parole à Nancy. Bonjour, Nancy.
Oui, allô.
On vous écoute?
Ben c'est ça. Moi, c'est pas la première fois que j'appelle. Je m'appelle tout le temps Béatrice. C'est ça, vous avez des sujets qui m'interpellent beaucoup et c'est la SLA, la sclérose latérale amyotrophique, dont ce n'est pas la sclérose en plaques. Alors, c'est une maladie dégénératrice du système nerveux central dont en 2011, mon copain à 42 ans est décédé. Et j'ai fait toutes les cliniques Dr. Gensch à Royal Victor et tout. Pour que on me dise après lui c'est la phase la plus agressive en plus de la SLA qu'il a eu à 42 ans et puis j'étais censée tout voir
ouais, mais ça aujourd'hui ça serait inclus docteur Marquis dans la nouvelle loi. Bien là on parle de maladie mentale bien sûr. Merci Nancy de votre témoignage. C'est ça qu'on voulait aborder aujourd'hui, c'est-à-dire les gens qui ont des enjeux de santé mentale et qui auraient l'impression que leur vie ne mérite plus d'être vécue. Là.
Et c'est vraiment complexe. Là. Oui, et c'est extrêmement complexe parce que c'est souvent le symptôme même de leur maladie mentale. Donc, on doit absolument voir que ça n'a pas rapport avec cette maladie mentale-là ou que c'est réfractaire à toute forme de traitement. Et moi, comme médecin de santé physique, je me sens extrêmement démuni face à cette question-là parce que moi, j'ai même pas idée de comment je commencerai à démêler tout ça. Mm-hmm. Et je pense que ça va vraiment être un travail de fond qui doit être fait par nos spécialistes en santé mentale au sens large, chez toute la communauté qui travaille avec ces gens-là, autant au quotidien du CLSC, autant que les gens qui travaillent dans des centres, qui accompagnent, et naturellement le corps médical. Mais c'est une question de fond qui interpelle tout le monde parce qu'il ne faut pas non plus que les conditions de vie soient une raison de demander de l'aide médicale à mourir. Si tu es malheureux parce que tu n'as pas de ressources, tu n'as pas accès à rien, puis que tu préfères mourir que d'être isolé dans ton coin, c'est vraiment pas une bonne raison de demander de l'aide médicale à mourir. C'est le système qui doit être repensé.
Ouais. Est-ce que ça vous paraît plus, à la rigueur, puis on a compris que c'est complexe aussi avec l'Alzheimer, mais est-ce que ça vous paraît plus, peut-être plus évident que pour l'Alzheimer, que la nouvelle loi québécoise couvre l'Alzheimer, mais que pour les questions de santé mentale, c'est-à-dire si quelqu'un dit « j'ai une dépression chronique sévère depuis très longtemps, je me lève plus le matin, je dors plus », il y a plein de raisons, là. Les gens peuvent avoir une profonde douleur qui fait qu'ils veulent plus. Est-ce que ça vous paraît impossible de mettre ça un jour dans cette loi sur l'aide médicale à mourir?
Donc, je pense que régler la partie des maladies neurologiques dégénératives va être beaucoup plus facile. Ça, on s'entend rapidement là-dessus. Je ne crois pas que c'est impossible pour la santé mentale, mais ça va demander de mettre des conditions gagnantes. Ça veut dire qu'il faut que les ressources soient là. Il faut que les thérapies soient disponibles. Il faut qu'ils soient optimisés. Et on va rester avec un sous-groupe de personnes, un petit noyau d'irréductible qui vont avoir un problème terrible. Et ceux-là, je pense qu'on va arriver avec une solution. Mais la solution, ce n'est pas de mettre de l'avant l'aide médicale à mourir, c'est de mettre de l'avant des ressources, de la prise en charge.
J'allais terminer, mais il y a Sophie qui nous appelle et qui a un enjeu de santé mentale ici. Bonjour, Sophie.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Je trouve ça bien ce que l'intervenant, votre invité, vient tout juste de dire. C'est que justement, je me demandais, moi, je souffre de troubles anxieux sévères et de cycles de dépression sévères depuis 12-13 ans. Je me bats, entre guillemets, pour vivre depuis des années, mais je reste une battante parce que j'ai des enfants, puis parce que j'ai foi en ce que la science continue de m'aider et la recherche aussi. C'est juste que parfois, on a des mauvais diagnostics, des mauvais suivis. Fait que ça fait qu'on n'en peut plus à un moment donné. Fait qu'effectivement, puis quand j'entends ce débat-là, je me dis, moi, peut-être qu'un jour, je vais être fatiguée de me battre. Il va falloir que je baisse les bras parce que j'en peux plus. Donc, est-ce que c'est un manque de ressources qui nous amène éventuellement à penser à en finir? Je trouve que c'est le cœur de la question.
Quand vous dites, il va falloir que je baisse les bras, vous voulez dire quoi, Sophie?
Ben justement, si j'avais le choix, si un jour on me donnait le choix d'avoir l'aide médicale à mourir, exemple à 60 ans, moi, mes deux grands-parents se sont enlevés la vie de façon assez violente parce qu'ils n'en pouvaient plus de souffrir. Oh. C'est sûr que le suicide des aînés, c'est différent que le suicide adulte, je pense, ou jeune. Mais je crois que si j'avais des soins, un diagnostic approprié, puis que les ressources étaient faciles et d'accès, peut-être que la question se poserait différemment.
Exactement. Merci, Sophie. C'est un témoignage important avec lequel on termine, Dr. Marquis. Je pense que Sophie témoigne là, du fait que...
Je pense qu'elle a extrêmement bien résumé toute la problématique en santé mentale et qu'elle l'a très bien articulée.
Tout à fait. Merci beaucoup d'être là pour les gens qui souffrent, Dr. François Marquis. On va continuer de vous suivre dans cette série, bien sûr, de Garde 24/7.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Tout de suite, après la pause, entrevue sans filtre avec l'auteur et scénariste Patrick Sénécal. Restez là, tout le monde.